Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. Onchocercose, mycétome, ulcère de Buruli, trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil, font partie des maladies tropicales négligées. Des maladies de la pauvreté qui affectent près d'un milliard de personnes à travers le monde, dont 40% en Afrique. Les conséquences de ces pathologies sont désastreuses d'un point de vue sanitaire, économique et social. Elles peuvent tuer, défigurer ou handicaper, et en empêchant des adultes de travailler ou des enfants d'aller à l'école, eh bien, elle condamne des communautés entières à rester dans la pauvreté, triste cercle vicieux. Pourtant, certaines d'entre elles, comme la maladie du sommeil, étaient sous contrôle dans les années 60, mais en raison d'un relâchement dans la surveillance, on a assisté à une réémergence de la maladie dans plusieurs régions du continent. Il faut dire que parvenir à dépister et traiter les dernières victimes de ces maladies demande un travail de terrain coûteux, long et laborieux, mais essentiel et obligatoire si l'on veut parvenir à les éliminer. Lors de la signature de la Déclaration de Londres contre les maladies tropicales négligées, le 30 janvier 2012, l'OMS souhaitait l'élimination de 10 d'entre elles d'ici 2020. L'heure du bilan a donc sonné et je vous propose de le faire aujourd'hui avec mes invités, ils sont nombreux. Le docteur Jean Janin, président de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Le professeur Jacques Chandonnier, professeur émérite en parasitologie, mycologie et médecine tropicale de la faculté de médecine de Tours. Secrétaire général de la Société francophone de médecine tropicale et trésorier de la Société française de mycologie médicale. Vincent Jamono, enfin, chercheur en parasitologie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et coordinateur d'un projet d'élimination de la THA, la maladie du sommeil, en Côte d'Ivoire. Et enfin, le docteur Draman Kaba, médecin entomologiste, chercheur, maître de recherche à l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire, directeur de l'Institut Pierre Richet, c'est à Boaké en Côte d'Ivoire, et également membre du comité de direction du LAMIVECT, le laboratoire mixte international sur les maladies à vecteurs. Bref, que du beau monde pour un sujet que Priorité Santé n'a jamais négligé.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Jean Janin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Jacques Chandonnier, bonjour. Ah, nous avons perdu déjà le professeur Jacques Chandonnier. On va y revenir.
Bonjour.
Bonjour, professeur Jacques Chandonnier. Soyez le bienvenu. Docteur Jean Janin, on va commencer par un bref retour en arrière avec vous. C'est vous, à l'époque, en 2000, lorsque vous étiez à l'OMS, qui avez développé ce concept de maladie tropicale négligée. Quel était l'objectif? C'était leur donner plus de visibilité?
Très exactement. En fait, dans les années 2000, nous avons dû faire face à un certain nombre de problèmes, en particulier des problèmes d'accès aux médicaments, puisque la plupart des grandes pharma, finalement, souhaitaient réduire ou arrêter la production de ces médicaments spécifiques. C'était aussi l'époque...
Parce qu'il n'y avait pas de retour sur investissement pour ces industries pharmaceutiques, justement.
Très certainement, parce que ça, c'est la base des choses. Il y a eu également à cette époque pas mal d'actions de Médecins sans frontières, la création de DNDi un peu plus tard. Donc, c'était un environnement favorable. Et à cette époque, vers 2002, le directeur général de l'OMS a demandé à quelques personnes de réfléchir sur ce qui pourrait favoriser la lutte contre ces maladies en lui donnant un concept un petit peu plus attractif, disons. Donc à l'époque, on a commencé à réfléchir à ça, et en 2003 et 2005, l'OMS a organisé à Berlin deux grandes réunions internationales qui ont délimité les contours de ce concept. Il y avait deux articulations principales. Le premier, c'était autour des droits de l'homme. Je crois que c'est tout à fait fondamental.
Parce que il faut rappeler que ces pathologies de la pauvreté affectaient particulièrement les femmes et les enfants. Voilà, c'était vraiment une atteinte aux droits.
C'est tout à fait ça. Et deuxièmement, c'était le problème de l'accès aux soins, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement l'accès aux médicaments, ça veut dire l'accès au diagnostic qui permettra l'accès au traitement, qui permettra l'accès à un médicament et qui, in fine, permettra un accès à une structure de santé. Donc l'idée, c'était de dire que si on arrive à rétablir cette chaîne d'accès, finalement, on pourrait peut-être arriver à éliminer ces maladies-là.
Professeur Jacques Chandonnier, voilà. À l'époque, 17 maladies ont été choisies. Sur quels critères ? C'était surtout des maladies qui défiguraient, c'est ça ?
Ah, c'est des maladies, donc parmi toutes les maladies, si vous reprenez la liste, il y a beaucoup de maladies parasitaires, mais il y a également des maladies bactériennes et on verra plus tard des maladies mycologiques. C'est des pathologies, oui, qui sont stigmatisantes pour les populations, souvent, hein, des populations qui sont déjà isolées dans leur mode de vie et qui en plus se retrouvent avec des lésions évolutives qui les mettent encore plus à l'écart de la société.
Est-ce qu'il y avait des traitements pour chacune de ces pathologies ? Jean Janin parlait justement du désengagement des laboratoires, mais à l'origine, est-ce qu'il y avait des traitements pour chacune d'entre elles ?
Alors, pas toutes. Il y a des pathologies qui disposaient de molécules qui étaient connues depuis longtemps, mais comme le disait Jean Janin, c'est l'accessibilité à ces molécules, en termes de prix, bien entendu, mais aussi en termes d'acheminement vers les populations. Et une des grandes actions de la mise en place de ce concept de maladie tropicale négligée a été de favoriser d'une part l'obtention des molécules, parce que les firmes se sont mobilisées derrière ce projet, derrière ce concept, et en plus il y a eu d'installer dans tous les pays des structures permettant l'acheminement de ces molécules qui étaient là fournies par les firmes, mais l'acheminement vers les populations. Donc ça a été vraiment une grande initiative qui a permis de booster la lutte contre toutes ces pathologies qui avaient été négligées en début du XXIe siècle.
Alors pour bien comprendre, Jean Janin, est-ce que justement la déclaration de Londres contre les maladies tropicales négligées a changé cela dans la mesure où, donc signée hein, par 13 laboratoires notamment et l'OMS et j'en passe, mais du coup 13 laboratoires en fait ont donné leur bibliothèque de molécules au DNDi, l'initiative médicaments pour les maladies négligées, ce qui vous a permis à vous, à l'époque OMS, de pouvoir reproduire certains médicaments, c'est ça qui s'est passé ou pas ?
C'est quelque chose qui ressemble, je vais vous dire deux mots. En fait, dès le début, on a réussi finalement à mettre autour de la table les industries pharmaceutiques, l'OMS, la Fondation Gates, MSF, etc. Enfin, tous les gens concernés. Ça a été un très grand succès parce que les relations entre l'industrie pharmaceutique et les institutions nationales ou internationales étaient un petit peu difficiles. Toujours est-il que rapidement, un consensus s'est établi sur le fait que les big pharma, appelons-les comme ça, pouvaient contribuer à cet effort. Donc une des clés du succès finalement, c'est que toutes les entreprises qui produisaient des médicaments ont accepté, un, de maintenir la production de ces médicaments, deux, de les fournir gratuitement. Et aujourd'hui, pendant à peu près toute cette période, une partie des médicaments était distribuée par des groupes, en général pharmaceutiques ou autres, et d'autres médicaments, par exemple pour la maladie du sommeil, pour les leishmanioses, la distribution était gérée directement par l'OMS. Ce qui fait que partout dans le monde, en moins de 48 heures, on pouvait avoir ces médicaments. Donc ça a été une avancée très importante.
Ceci dit, Jean-Janin, ce n'était pas forcément suffisant. Vous rappelez le rôle de l'industrie pharmaceutique, donc qui produisait gratuitement certains médicaments. Encore fallait-il les apporter au bout de la piste. J'ai eu la chance de voyager avec vous au Tchad, au fin fond du Logone oriental, pour apporter justement des médicaments à des patients victimes de maladies du sommeil. Il faut atteindre ces zones, c'est extrêmement compliqué pour se rendre dans ces zones. Et donc, il faut l'appui du Big Pharma aussi.
J'ai plus beaucoup de... Bon, maintenant, j'ai la parole plus libre, mais c'est vrai qu'en 2001, je me souviens avoir négocié avec le Sanofi de l'époque, qui était Aventis, les donations de médicaments pour la maladie du sommeil. Et c'est vrai que quand, à l'époque, Sanofi a accepté de nous les donner en quantité illimitée, ad vitam, etc., j'ai souvenir d'avoir dit à M. Dehaec, qui était le président de Sanofi, que je n'acceptais pas cette donation parce qu'au fond, je n'arriverais pas à les distribuer, je n'arriverais pas à diagnostiquer les patients. Et au fond, je crois qu'à cette époque, il faut reconnaître les choses, Sanofi a été plutôt intelligent, beaucoup d'autres y sont venus et a accepté de nous donner une aide financière en complément des médicaments pour pouvoir améliorer le diagnostic, l'accès aux patients et la distribution. Voilà.
Professeur Jacques Chandonnier, est-ce que vous pensez que certaines maladies tropicales négligées sont susceptibles d'être éliminées en 2020 selon la déclaration de Londres, finalement?
Ça, c'est la
question.
Oui, je pense. Non, je pense que ça, et notre collègue Jamono vous en parlera tout à l'heure.
On va le prendre en ligne dans 2-3 minutes.
S'il y a une maladie qui est le plus proche de l'élimination dans les maladies tropicales négligées, enfin on en a deux, hein, c'est la maladie du sommeil et la dracontulose, hein, une maladie historique spectaculaire avec des vers qui
le vert de la maladie peau. Du vers de Guinée, c'est comme
le
ça que nos maladies
Guinée,
la connaissent.
Voilà. Les auditeurs la connaissent, c'est le vers de Guinée. Donc ces deux maladies seraient les plus susceptibles d'être éliminées au moins, hein, et je pense que Jean Janin va revenir sur le principe de l'élimination. Ce serait peut-être les deux en 2020, mais il reste plus longtemps et les conditions sanitaires mondiales ne font pas...
Ça ne plaide pas en la faveur de l'élimination pour l'instant,
non,
avec la pandémie de Covid-19.
Exactement, parce que comme vous l'avez signalé, hein, et comme Jean Janin le disait tout à l'heure, hein, il faut du diagnostic, il faut du médicament, de l'acheminement de médicaments, etc.
Tout ça est très compliqué.
De la surveillance, et ça demande beaucoup de mobilisation, et en ce moment...
On manque de fonds. Docteur Jean Janin, on va effectivement s'arrêter un instant sur la THA, la trypanosomiase humaine africaine, qu'on connaît sous le nom de maladie du sommeil. Juste avant cela, un petit mot sur ce concept d'élimination. On parle bien d'élimination, pas d'éradication. Expliquez-nous un peu ces nuances et ces concepts.
Alors, en deux mots, pour faire rapide, on a... différentes étapes pour aller vers une possible éradication. Le premier, c'est la lutte, ce qu'on appelle le contrôle intensif. Le but, c'est quand une maladie est très répandue, de pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent de diminuer drastiquement la prévalence. L'objectif de ces contrôles, c'est d'arriver à une élimination en termes de santé publique, c'est-à-dire de faire en sorte que le poids de ces maladies-là ne soit plus une difficulté majeure pour les gouvernements. Cela dit, ce n'est pas suffisant. L'étape suivante, c'est l'élimination. L'élimination, elle se définit comme un zéro cas, en fait. C'est-à-dire qu'au moins dans certaines régions, on puisse montrer qu'il n'y a plus de cas nouveaux, par conséquent que la transmission s'est arrêtée ou du moins a beaucoup ralenti. Par contre, cette élimination nécessite des efforts continuels ensuite pour assurer, on en reparlera sûrement, la durabilité, c'est-à-dire que cette élimination ne reparte pas. Et puis l'étape suivante, c'est l'éradication. Et ça, c'est encore un autre problème. L'éradication, ça veut dire qu'une maladie est à zéro cas, effectivement, dans le monde entier, et ça doit être certifié, et pour lesquels on a l'assurance que la maladie ne peut pas réémerger. Vous voyez ? Et ensuite, au fond, si on va jusqu'au bout, on arrive à l'extinction, c'est-à-dire, c'est jamais arrivé, mais que
la disparition totale
d'une maladie. Un agent pathogène n'existe plus à la surface de la Terre.
Alors, merci pour ces précisions, Jean Janin, mais le temps passe très vite, j'aimerais qu'on avance un petit peu. On va s'arrêter un instant donc sur la maladie du sommeil. C'est une maladie transmise à l'homme par la mouche tsetse, et c'est surtout une maladie mortelle qui menace 65 millions de personnes uniquement sur le continent africain.
Quand elle est tombée malade, elle n'arrivait plus à dormir. Souvent, elle est couchée dans le lit, dans la maison. Tu entends des voix, on dirait qu'elle est en train de causer avec quelqu'un. Elle n'est pas tout seule. Et puis ses yeux-là étaient devenus autre couleur. En la voyant même physiquement là, tu serais désespéré. Parce que le docteur m'a dit, après le résultat, tu avais une semaine. Si elle ne venait pas dans la semaine-là, ta femme-là, elle allait devenir folle. Et cela, il m'a dit, trypano, il y a plusieurs qualités. Il y a pour dormir seulement, Il y a d'autres aussi, il te fait veiller à tout moment. C'est ça qui rend l'homme dingue. J'ai dit Dieu merci. En fin de compte, elle était devenue gênante pour moi. Mais c'est ma femme, qu'est-ce que je vais faire?
Gênante pour vous? Et comment elle était perçue par les autres du village? Est-ce qu'il y avait de la stigmatisation, des railleries?
C'est ça. Elle était perçue par mes voisins. Celle-là, elle ne va pas debout. Elle attend son jour. Les gens même avaient peur d'elle. Quand celui qui vient pour aller la saluer dans la maison, même si c'est une femme, elle ne veut pas rentrer. Parce que pour eux, s'ils rentrent, c'est condamnation. Bon, ces petites critiques-là, c'était partout à ce temps-là dans mon entourage.
Et les voisins alors, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Eux qui n'osaient pas entrer dans la maison quand elle était malade, quand ils la voient travailler au champ, qu'est-ce qu'ils disent?
Les voisins, ce qu'ils disent maintenant là, on l'appelle Soukro. Soukro veut dire le revenant. Parce que personne n'était sûr qu'elle allait se réveiller. Non, moi-même, j'avais perdu l'espoir. Ça nous a étonnés tous.
C'était Zoumana Kone, un planteur de café cacao de Bonon, dans l'un des derniers foyers de la maladie du sommeil en Côte d'Ivoire. Vincent Jamonneau, bonjour.
Oui, bonjour Igor Strauss, bonjour au docteur Jean Janin et au professeur Chandonnier, bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation.
Eh bien, merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes chercheur en parasitologie à l'Institut de Recherche pour le Développement et coordinateur depuis 2016 d'un projet d'élimination de la THA, donc la maladie du sommeil en Côte d'Ivoire. Alors, vous étiez là en 2017 lorsque j'ai recueilli ce témoignage, puisque je suivais le travail de votre équipe dans la boucle du cacao en Côte d'Ivoire. À l'époque, vous étiez confiant, vous pensiez qu'il était possible d'éliminer la THA en Côte d'Ivoire d'ici 2020. Nous sommes en 2020, ça ne vous aura pas échappé. Êtes-vous toujours optimiste?
Alors, disons optimiste, pas complètement, mais ça, j'y reviendrai. Disons qu'à ce stade, je suis plutôt satisfait, puisqu'à l'image de ce qui se passe à l'échelle du continent, on observe en Côte d'Ivoire une réduction très importante du nombre de cas. En fait, on en dépistait plusieurs centaines par an au début des années 2000. Et là, on a eu seulement 8 cas dépistés depuis 2015. Donc, on peut dire que l'objectif fixé en 2017, donc au moment du reportage dont est extrait le témoignage qu'on vient d'entendre, il est atteint. Et le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, donc ça c'est une information récente, une actualité, va soumettre dans les prochains jours à l'Organisation mondiale de la santé, le fameux dossier de demande de validation de l'élimination comme problème de santé publique, qui était donc l'objectif annoncé pour 2020 par l'OMS.
Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, Vincent Jamonneau. C'est plutôt une très bonne nouvelle.
D'autant plus, voilà, ce que j'allais dire, c'est que on est d'autant plus satisfait. Donc, quand je dis « on », je parle un petit peu au nom de mes collègues ivoiriens, que je salue au passage, parce qu'en fait, ces chiffres, ils sont le fruit d'énormes efforts, donc tout d'abord politiques et institutionnels, puisque la Côte d'Ivoire a été le premier pays à se doter de ce qu'on appelle un programme national d'élimination de la maladie du sommeil, derrière lequel, en fait, se sont rassemblés tous les acteurs de la recherche et de la lutte. C'est ce qui nous a permis en fait de combattre la maladie sur tous les fronts, avec des médecins, des infirmiers, des parasitologistes, des entomologistes, etc. Et surtout, avec un appui de la recherche qui m'est cher, moi, à la lutte et qui nous a permis donc d'être particulièrement efficaces. Et donc, alors bien entendu, il y a aussi eu un engagement financier important avec plusieurs bailleurs de fonds qui ont soutenu nos efforts. Donc voilà, les nouvelles à ce stade sont plutôt bonnes. Mais je reviendrai sur les inquiétudes un petit peu plus tard.
Bien sûr, j'ai juste redonné un petit peu la parole à Jean Janin, si vous voulez bien, Vincent Jamonneau. Là, les derniers chiffres de l'OMS en 2019, il y a eu 980 cas donc sur le continent africain. On est donc loin des 300 000 malades estimés par l'OMS dans les années 90. Un des pays qui concentre le plus de malades, 80% des patients, c'est la RDC. Ça va être plus compliqué à éliminer dans ce pays, Jean Janin?
Je suis pas sûr. Si on regarde un petit peu l'histoire, la RDC finalement a toujours été le plus gros entre guillemets foyer de maladie du sommeil en Afrique. Moi, j'aimerais souligner, avec toute l'expérience que j'ai pu avoir, que les gens en RDC travaillent énormément et finalement, je suis très confiant dans leur capacité à poursuivre les activités et à aboutir. Maintenant, si vous me donnez juste une minute, la grande difficulté à laquelle on risque de faire face, c'est que plus le nombre de cas diminue dans un pays ou sur un continent ou autre, plus il est difficile d'utiliser les mêmes stratégies de dépistage, de traitement, etc. Et je crois que la condition absolue au succès de l'élimination de la maladie du sommeil, comme d'autres d'ailleurs, ça va être de pouvoir inventer de nouvelles stratégies de lutte, de s'intéresser à des thématiques qui n'étaient pas tant d'actualité que ça, comme l'étude des réservoirs, etc. Et donc, au fond, l'élimination, quand elle arrive comme ça, avec la diminution des cas, normalement, ouvre des champs de recherche en sciences et en santé publique qui sont immenses. Maintenant, est-ce que je ne sais pas qui on, mais est-ce que l'on sera capable de saisir ces opportunités et de répondre à ces questions pour aller au bout?
Vincent Jamono, justement, vous, en Côte d'Ivoire, la lutte contre la THA s'est organisée autour de trois... Il y a une lutte médicale, pour le dire concrètement, une lutte anti-vectorielle, et puis il y a également des projets de recherche, hein, il fallait les trois pour être complets. Quels sont, selon vous, les prochains défis à relever et les axes de recherche dont parlait Jean Janin?
Ouais, alors en fait, donc vous avez déjà décrit les deux grandes stratégies de lutte, hein, la lutte médicale qui vise à dépister et traiter les malades pour assainir donc le réservoir humain de parasites, et donc la lutte contre le vecteur qui permet de réduire le risque de transmission. Alors, en fait, nous, toutes nos recherches, elles contribuent à améliorer ces stratégies et les outils utilisés. Et en fait, ce que vient de dire le docteur Janin, c'est qu'on est passé en 20 ans d'une situation où il fallait contrôler des épidémies à une situation aujourd'hui où il faut dépister les tout derniers cas. Donc, il a fallu s'adapter. Alors, je vais vous donner un exemple concret du rôle de la recherche. La lutte médicale, elle a longtemps reposé sur le dépistage actif des cas par des équipes mobiles qui se déplacent de village en village dans les zones à risque. Mais avec la diminution des prévalences, cette méthode, elle n'est plus efficace. Et elle est progressivement remplacée par ce qu'on appelle la surveillance passive intégrée dans les centres de santé. Et là, il y a plusieurs outils de diagnostic adaptés à cette stratégie qui ont dû être développés. Et nous, actuellement, nous sommes en train d'évaluer sur le terrain ces outils afin de pouvoir identifier le plus efficace qui sera choisi par le programme national dans les stratégies nationales de diagnostic. Et justement, je poursuis sur ce sujet, toujours dans la même veine. Nous développons aussi d'autres nouvelles stratégies. Il faut toujours innover, qui reposent sur ce que nous, on appelle maintenant un dépistage réactif ciblé. Par exemple, dès qu'un cas est dépisté, on fait un suivi spatialisé et on géoréférence tous les trajets et les lieux de vie du malade. Et ensuite, on fait un dépistage qui cible les populations qui partagent les mêmes espaces de ce malade, partant du principe donc qu'elles ne sont plus à risque. Mmh. Et alors, juste encore, toujours sur le même sujet, on s'intéresse aussi, comme l'a dit le docteur Janin, à tout ce qui pourrait compromettre aujourd'hui l'objectif d'élimination et qui n'était donc pas forcément une priorité en situation épidémique, mais qui le devient.
Vous devez vous assurer qu'il n'y ait pas de réémergence, c'est ça, Vincent Jamono, finalement, c'est ça?
Ben voilà. Exactement. Donc, je pense notamment à des réservoirs cachés de parasites qui ne seraient pas détectés par les outils actuels, comme par exemple un réservoir animal du parasite. Il y a une étude assez récente menée dans le centre-ouest ivoirien qui a montré que les porcs qui sont souvent élevés en divagation, c'est-à-dire en liberté dans et autour les villages, pourraient être porteurs du trypanosome.
Et voilà, écoutez, une affaire à suivre. Donc, écoutez, merci beaucoup Vincent Jamono. Je rappelle que vous êtes chercheur en parasitologie à l'Institut de Recherche pour le Développement et coordinateur depuis 2016 d'un projet d'élimination de la THA en Côte d'Ivoire. Et apparemment, c'est en bonne voie.
pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. La santé, c'est une priorité.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des maladies tropicales négligées qui affectent près d'un milliard de personnes à travers le monde, dont 40% en Afrique. Ces maladies de la pauvreté ont des conséquences désastreuses. Elles peuvent tuer, défigurer ou handicaper et elles condamnent des communautés entières à vivre dans un total dénuement. Professeur Jacques Chandonnier, avec vous, on va parler de mycétome et autres mycoses cutanées profondes tropicales. Alors, les mycétomes ont été rajoutés en 2018 à la liste des maladies tropicales négligées. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce répandu? Et pourquoi cette entrée tardive dans la liste des maladies tropicales négligées?
Ah, c'est votre dernière question qui est la plus intéressante.
Passez directement à la dernière si vous voulez.
Non, comme vous l'avez rappelé très justement, vous avez rappelé la définition des maladies tropicales négligées telle que le concept avait été mis en place à l'OMS sous la direction de Jean Janin au début du 21e siècle. Eh bien, les mycoses profondes cutanées tropicales rentrent dans tous les critères. Ce sont des pathologies qui touchent des populations très négligées, très isolées, très rurales, qui ont un accès aux soins très
surtout
limité.
Des agriculteurs, c'est ça, dans les zones reculées?
C'est surtout des agriculteurs, parce que toutes ces mycoses cutanées profondes, c'est l'intrusion de champignons du milieu extérieur, des végétaux, sous la peau des patients. Donc, toutes ces pathologies touchent... Excusez-moi, j'ai un gros retour. J'ai un gros retour dans le téléphone.
Ah, vous vous entendez donc... vous-même? Mais écoutez...
Ah oui, je m'entends beaucoup.
Enlevez votre casque ou je ne sais pas.
Non, c'est toutes ces pathologies donc qui sont dans le milieu extérieur, et bien ce sont les agriculteurs en se déplaçant pieds nus dans la brousse qui s'inoculent les champignons. Le champignon se développe sous la peau et ça peut donner différentes maladies comme les mycétomes, les sporotrichoses ou les chromoblastomycoses comme vous le disiez, mais il y en a d'autres. Les entomophthoromycoses, vous voyez, c'est des mots un petit peu compliqués.
C'est des noms savants. Concrètement, comment se passe la transmission? Parce que moi, j'ai vu les images, je vous déconseille d'aller regarder, c'est absolument... c'est choquant. Hein,
Oui, mais c'est au contraire ce que j'allais conseiller à vos auditeurs.
Parce
que
c'est ça, vous qui nous avez conseillé de regarder. Mais...
Oui, tout à fait. Je voulais conseiller parce que tout ça, ça reste des mots très compliqués, des mots savants. Je conseille à vos auditeurs de taper sur Internet « images mycétomes » et ils comprendront pourquoi ces maladies, on a besoin de s'en occuper parce que ce sont des maladies qui rentrent tout à fait dans la définition. C'est des maladies qui
sont invalidantes, stigmatisantes.
Exactement, et qui mettent encore plus à l'écart des populations qui sont déjà défavorisées dans les pays où ils habitent.
Est-ce que le dépistage et le diagnostic se font facilement? Est-ce que les soignants sont bien formés à la prise en charge?
C'est justement là le
parce que là, on parle du dispensaire de brousse, hein, vu qu'on est au bout du bout de la piste, pour le coup.
Tout à fait. Et c'est sûr qu'un cas de mycétome ou de chromoblastomycose ou d'entomophthoromycose qui arrive chez un confrère parasitomycologue d'une capitale africaine ou sud-américaine ou indienne, selon les pathologies, et ne posera pas de problème à mon confrère sur place. Par contre, c'est quand ces patients arrivent dans les services des capitales, eh bien, c'est des pathologies qui ont déjà évolué depuis de nombreuses années, voire des dizaines d'années, parce que c'est une pathologie qui évolue très lentement, très sournoisement, et qui n'est pas a priori létale. Donc c'est négligé par les populations, parce que vous savez aussi bien que moi, hein, de trouver un taxi pour aller au dispensaire, puis du dispensaire jusqu'à l'hôpital de région.
C'est un coût, et un coût souvent inaccessible pour ces populations, bien sûr.
C'est inaccessible. Donc c'est le problème reste actuellement de former encore et encore les personnes qui sont en contact avec ces populations rurales pour qu'ils dépistent très précocement ces maladies.
On parle d'élimination donc de ces maladies tropicales négligées. Est-ce que le mycétome pourrait être éliminé à court ou moyen terme?
Non, les mycoses cutanées profondes, hein, c'est très différent des mycoses de la peau que vous connaissez dans les cheveux des enfants, entre les orteils, ou des mycoses très graves telles qu'on les rencontre en Occident. Ce sont des pathologies qui sont en rapport avec le monde rural, et comme je vous le disais, c'est des champignons, des végétaux qui pénètrent dans la peau. Mmh. Donc pour éliminer cette maladie, il faudrait éliminer les végétaux. Comme ça, on éliminerait les champignons qui vont avec. Donc, c'est complètement impossible. Ou alors, il faudrait que les patients ne se contaminent plus. Et pour ça, il faudrait imposer le port des bottes à tout le monde dans toutes les zones tropicales.
Alors que bien souvent, ces agriculteurs sont pieds nus, faute de moyens, encore une fois.
Faute de moyens, ou même de façon traditionnelle.
Ou de confort, tout simplement.
Travailler les champs en bottes en caoutchouc dans le Sahel, c'est pas pensable. Donc c'est pour ça que nous, dans ce domaine des maladies tropicales négligées, je dis nous, les collègues, que ce soit au Burkina ou à Madagascar, où il y a des gros problèmes de chromoblastomycose, ou dans tous les pays du Sahel où il y a des problèmes de mycétomes, eh bien c'est pour ça que nous insistons sur la formation au dépistage précoce. Et là encore, on y revient à l'accès aux médicaments, parce qu'il existe des molécules. Pour le mycétome, c'est un petit peu plus délicat parce que, heureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a DNDi qui travaille sur le sujet et on a de bons espoirs avec un nouveau médicament qui est en train d'être évalué par DNDi.
Donc c'est l'initiative pour les médicaments pour les maladies tropicales
négligées. Hein, l'initiative. Et donc là, pour le mycétome, on peut espérer de cette initiative. Mais dans les autres maladies, la chromoblastomycose, la sporotrichose, les entomophthalmycoses, il existe un médicament, hein, qui est l'itraconazole et qui pourrait guérir les patients s'ils sont pris précocement. Mais là encore, il y a un problème d'obtention de ces molécules et d'accessibilité des populations à ces molécules. C'est des maladies très chroniques, très longues à traiter, avec un suivi. Et donc, c'est très compliqué.
Et ce sont surtout des maladies, on l'a déjà dit, hein, invalidantes, puisque évidemment, on peut arriver juste à l'amputation.
À l'amputation, oui.
Et ça c'est fréquent, justement.
Ah ben dans le mycétome fongique, hein, parce qu'il existe un autre mycétome lié à des bactéries qui se traitent beaucoup plus facilement, mais le mycétome lié à des champignons, les patients arrivent souvent après une longue évolution de la maladie, et donc la seule solution pour éviter que la maladie diffuse, métastase même au niveau du pli de laine, etc., c'est l'amputation avec parfois des récidives. Donc c'est pour ça que quand ça a été inclus dans les maladies tropicales négligées, ça a été un gros soulagement pour nous les mycologues, parce que on a pu intégrer ces luttes contre les mycoses et ces formations et cette accessibilité aux médicaments dans les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées qui sont installés, comme le rappelait Jean Janin tout à l'heure, qui sont installés dans chaque pays. Et nous, on a pu se greffer sur ces programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées qui sont suivis par l'OMS. Et donc, dans chaque programme national, il y a maintenant un volet lutte contre les mycoses tropicales négligées.
Ça, c'est une bonne chose. Il faudrait que d'autres organismes, je pense à l'OIF, s'intéressent à ces pathologies, ces maladies tropicales négligées.
Ah ben c'est devenu lors de la dernière réunion de l'OIF à Erevan en 2018, c'est une des recommandations finales de la réunion de la francophonie qui avait été présidée par le président Macron. Une des recommandations, c'était de favoriser la lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc c'est un des volets, et c'est sûr que, bien sûr, surtout dans les régions sahéliennes, s'appuyer sur la francophonie est évidemment bien entendu un moyen qui est à notre disposition.
Donc c'est plutôt une bonne chose. Merci, professeur Jacques Chandonnier, restez avec nous évidemment. On va continuer notre petit tour des maladies tropicales négligées et accueillir un autre invité, le docteur Draman Kaba. Bonjour.
Bonjour Jean, bonjour Igor.
Merci d'être avec nous, docteur Draman Kaba. Vous êtes médecin entomologiste, chercheur, maître de recherche à l'Institut National de Santé Publique de Côte d'Ivoire, directeur de l'Institut Pierre Richer à Boaké et membre du comité de direction du LAMIVECT, le laboratoire mixte international sur les maladies à vecteurs. Docteur Kaba, on aurait pu vous entendre sur la maladie du sommeil dont vous êtes également spécialiste. On a donné la parole à Vincent Chamonneau avec vous. On va parler des parasitoses à chimiothérapie de masse dont fait partie l'oncocercose, une maladie provoquée par un parasite, l'oncocercose qu'on appelle souvent la cécité des rivières, c'est ça?
Oui, exactement. C'est la complication ultime de cette maladie, la cécité des rivières. Elle cause donc une cécité. Voilà, c'est une pathologie qui est causée par un moucheron. Une petite mouche donc qui se trouve le long des cours d'eau, des rivières en Afrique et aussi en Amérique centrale. Voilà.
Quels sont les symptômes de cette maladie? C'est des lésions oculaires, c'est ça?
Oui, exactement, ce sont des lésions oculaires. Il y a certes des lésions cutanées, des démangeaisons, etc. Mais la complication majeure, c'est vraiment cette cécité-là, qui vraiment cause tous les acteur social et économique de cette maladie.
Est-ce qu'il existe des traitements? Je pense à l'ivermectine notamment, c'est efficace?
Oui, alors l'ivermectine est efficace. Par le passé, on a vu deux grands programmes qui ont été mis en place, donc du fait de l'impact de cette pathologie-là, qui a fait que des zones fertiles entières ont été abandonnées donc, par les populations.
Mais c'est ça, c'est extrêmement important ce que vous racontez, c'est que non seulement les gens perdent la vue, mais en plus doivent abandonner des terres extrêmement fertiles et donc plus d'agriculture. Donc c'est un double fléau finalement.
Oui, bien sûr, ça a eu un impact social et économique très, très, très important en Afrique. Et donc le programme OCP qui a concerné dans 11 pays africains a permis donc d'éliminer cette maladie-là, d'arrêter la transmission donc dans ces différents pays d'Afrique de l'Ouest.
Alors, donc, ce programme OCP dont vous parlez, il a duré de 1974 à 2002, vous le disiez, dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest, il a permis l'élimination, mais ça n'a pas suffi, c'est revenu, c'est ça?
Alors, vous savez, l'oncocercose est une maladie par accumulation, c'est-à-dire que contrairement à la trypanosomiase humaine africaine, où lorsque vous avez un seul parasite, vous faites la maladie, eh bien, l'oncocercose, vous avez besoin donc d'un taux, d'une somme de parasites donc, pour faire la maladie. Alors, c'est vrai que l'élimination a été obtenue, mais il fallait donc poursuivre donc, la distribution des médicaments afin de maintenir ses acquis obtenu donc par le programme OCP.
Alors voilà. on dit que l'élimination était acquise, mais un pays par exemple comme la Sierra Leone, ça n'avait pas été le cas, faute de guerre civile évidemment. Pour le suivi, pareil, et dans la stratégie de dépistage, on préconise la distribution pareil d'ivermectine. En Côte d'Ivoire, idem, un pays qui a connu une guerre pendant 10 ans, est-ce que ça a favorisé la résurgence de l'oncocercose en Côte d'Ivoire?
Oui, en tout cas, ça a perturbé quand même le système de distribution de ces médicaments-là, parce qu'il y a un réseau donc, de distribution qui est mis en place. Voilà, une stratégie qui est mise en place donc, pour la distribution de ces médicaments aux populations, avec implication même des populations. Et donc, la période donc, du trouble a causé donc, une perturbation de ce système de distribution. Mais aujourd'hui, avec le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, donc à chimiothérapie préventive, eh bien, la lutte a repris. Et on connaît aujourd'hui tous les districts qui sont atteints de cette maladie. Et cette distribution, donc, se fait très bien et ça se passe très bien.
Alors, en revanche... Oui. En conclusion, parce que le temps passe très vite, docteur Draman Kaba, que faut-il faire pour parvenir à atteindre les objectifs du développement durable, éliminer ces maladies? Il faudrait quoi? Intégrer les maladies tropicales négligées à la couverture universelle, par exemple, des choses comme ça?
Oui, justement, il faut intégrer la couverture universelle, essayer d'intégrer la prise en charge justement des cas parce qu'il y a des co-infections dans certaines régions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs de ces maladies qui se retrouvent et donc dans le cas de la distribution, il faut pouvoir intégrer donc pour mutualiser, pour être plus efficient. Il faut aussi, Jean l'a dit tout à l'heure, l'accessibilité à l'eau potable, au diagnostic, au traitement, etc. Et pour cela, il faut également associer justement et mobiliser les populations. C'est important. Jean a parlé donc de durabilité. Et la durabilité, en fait, ne peut s'acquérir sans que les populations elles-mêmes ne s'approprient justement la lutte qui est mise en place à leur encontre. Donc, c'est important. Et puis, bien sûr, Jean l'a dit également, les autres l'ont dit, la collaboration est très importante dans ce cadre-là. Et si vous permettez, justement, je voudrais juste faire un clin d'œil sur le Lamivecteur. C'est une plateforme donc qui a joué un rôle important dans le cadre de l'élimination justement de la tétanosomie germinale africaine dont a parlé le collègue Jamono Vincent. Alors c'est un outil de développement de l'Institut de recherche pour le développement, une plateforme qui regroupe donc les institutions de recherche et les universités de deux grandes villes de deux pays voisins. Donc il s'agit donc du Bobo-Dioulassé et de Boaké. Alors, qui constitue un pôle d'excellence en recherche et formation au service de la lutte contre les maladies. Alors, en termes de résultats, justement, cette mutualisation a permis de mettre ensemble d'abord 7 institutions dans 3 pays différents. C'est l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD, le Burkina, au Burkina Faso, nous avons l'IRSS, l'UND, le CIRDES, et en Côte d'Ivoire, nous avons l'Institut national de santé publique à travers l'UPR. Et puis,
voilà. Ne citez pas tous ces organismes parce que malheureusement, nos auditeurs ne les connaissent pas, donc ça va, voilà, ils ne vont pas forcément comprendre. En conclusion, docteur Kaba.
En conclusion, je crois qu'il faut dire que les maladies dont on a cité tout à l'heure là sont des maladies très anciennes. Hein, et je te remercie justement de nous donner l'opportunité d'en parler parce que c'est aussi de la négligence. Et c'est inadmissible qu'aujourd'hui, avec les nouveaux défis que nous connaissons tels que la COVID, eh bien ces maladies continuent d'exister. C'est pour ça qu'il faut mettre plus d'efforts pour essayer donc d'en finir avec ces pathologies, de sorte donc à concentrer les énergies.
Eh ben, on a bien compris. La ligne se détériore. On va s'arrêter là, docteur Draman Kaba. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin entomologiste, chercheur, maître de recherche à l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire. Bonne journée à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et oui, vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des maladies tropicales négligées qui affectent près d'un milliard de personnes à travers le monde, dont 40% rien qu'en Afrique. Docteur Jean Janin, on va terminer avec vous pour dire un petit mot de l'ulcère de Buruli. Après la tuberculose et la lèpre, c'est la 3e maladie tropicale mycobactérienne la plus courante au monde. Rappelez-nous de quoi il s'agit, docteur Janin.
Oui, juste 2 mots. Alors, l'ulcère de Buruli, c'est une très très ancienne maladie, et en fait, c'est dû à une mycobactérie. On ne sait même pas trop comment elle se transmet d'ailleurs, probablement via quelques insectes autour des marégouts. Toujours est-il que cette mycobactérie se développe sous la peau et sécrète une toxine qui s'appelle la mycolactone et qui a pour propriété de détruire la peau autour d'elle. Et donc c'est une maladie qui est absolument horrible. Vous parliez du mycétome tout à l'heure. Je ne conseillerais pas obligatoirement aux gens de voir les photos de Buruli.
Je vous confie, moi j'ai fait un reportage en Cameroun sur l'ulcère de Buruli et malheureusement je vois ce que c'est, je m'en rappelle très très bien. Une maladie méconnue, hein, disiez-vous, docteur Jean Janin.
Alors, ce qui est intéressant dans cette maladie, c'est qu'au fond, il y a environ une dizaine d'années, 10-15 ans, on a poussé un certain nombre d'études pour voir si les antibiotiques pouvaient fonctionner au lieu de la chirurgie reconstructrice, qui était à peu près la seule alternative. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré qu'en 8 semaines d'antibiothérapie, on pouvait guérir les cas relativement précoces. Et au fond, en 2009, on a eu une grande réunion qu'on a organisée à Cotonou avec des chefs d'État africains qui ont acté une nouvelle stratégie pour Bouhouri qui était de dire on fait un dépistage précoce, ensuite on met sous antibiothérapie tous ces gens, en particulier les enfants, et au fond on devrait arriver à voir la fin de cette maladie. Alors, pour illustrer un petit peu ces problèmes auxquels on fait face, c'est de dire très très bien, maintenant comment fait-on un diagnostic précoce de cette maladie? Au début de cette maladie, quelqu'un, pour ça, un gros don. Et si vous avez, et je sais que vous l'avez fait voyager en brousse et partout, bah tout le monde a des petits problèmes dermatos, des boutons, des choses comme ça. Ça évolue relativement vite. Et au fond, au jour d'aujourd'hui toujours, on n'a pas de test simple et rapide pour pouvoir faire le diagnostic. Par conséquent, toute cette stratégie qui est intelligente, qui serait bien, etc., etc., ne peut être mise au point parce qu'on n'a pas d'outil diagnostic simple. Pendant des années, alors ça c'est une petite différence, on verra avec d'autres, il y a certaines maladies tropicales négligées qui sont un petit peu plus sous le feu des projecteurs et qui recueillent plus d'attention et donc de financement. Bouhouri, c'est très compliqué. C'est
pas très Jean-Janin, très clairement, vous nous disiez en préparant cette émission que l'ulcère de Bouhouri était l'exemple type des difficultés à attirer l'attention des pays et des donateurs. Voilà. Comment l'expliquez-vous? C'est la nature de la maladie, ces horribles plaies, ça décourage,
c'est pas ça. Vous savez, au sein de la communauté des donateurs ou même des politiques, etc., chacun, et ce n'est pas une critique, mais choisit un petit peu ses affections. Donc il y a un certain nombre d'affections pour lesquelles il y a eu des financements et un intérêt très très important, et c'est tant mieux. Et puis il y en a d'autres sur lesquelles on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à mettre la lumière dessus. Bouhouri, c'est un exemple qui est quand même... Moi j'ai cherché à l'époque pendant à peu près 5-6 ans, environ 300 000 dollars, ce qui est rien, pour finir d'essayer de développer des tests. En particulier, on avait un test, ça s'avère plus compliqué, mais qui aurait été utilisé en détectant ces fameuses mycolactones. C'était assez simple, etc. Mais personne n'a jamais voulu mettre un centime dedans. Donc on a trouvé un peu d'argent. Mais ça illustre bien la difficulté de conduire ces programmes à leur terme. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut même avoir quelques outils qui soient nouveaux, intéressants. Il faut arriver à intégrer ces outils dans des politiques nationales et dans des actions de terrain. Ça, c'était pour Bouhouri, ça montre bien cet exemple qui fait que on a eu un traitement, on sait comment faire. Il y a une déclaration mondiale sur la façon de faire, tout le monde est d'accord, sauf que personne ne veut financer le point de départ des choses. Il faut diagnostiquer les patients si on veut les traiter. Ça, c'est un principe de base.
Alors, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, un petit bilan, professeur Jacques Chandonnier, que faut-il faire? Surtout ne pas quitter le navire, inciter les bailleurs de fonds, les États, l'OMS à investir davantage?
Bien sûr, ça c'est un travail politique à long terme et la Société francophone de médecine tropicale s'y emploie, je peux vous le dire, quotidiennement. Il faut pousser les bailleurs, mais il faut aussi aider les pays mettre en place ces politiques de dépistage de ces maladies qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont au bout de la piste. Et donc, dans toutes les réunions scientifiques qu'on a pu faire à Bobo du Lasso, qu'on a pu faire à Tananarive avec la Fondation Mérieux, les dermatologues locaux et tout pour la chromoblastomycose, eh ben, on essaye de mobiliser, faire connaître, augmenter la formation pour dépister précocement, que ce soit le Bouhouri, l'oncocercose.
Merci. Je vous coupe. On est déjà à la fin de cette émission. En tout cas, Jean-Janin nous le disait en préparant cette émission. Il faut remettre ensemble la politique et la science et enfin, on pourra avancer. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. On refera une émission sur ces maladies tropicales négligées. Vous pouvez aller sur le site de la Société francophone. C'est société-mtsi.fr. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission et à lundi.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.